On va parler de boxe avec Bernard Barry ce matin. Triste nouvelle. Écoute, Marvin Hagler, qui est probablement l'un des plus beaux boxeurs que j'ai vu, est décédé hier à l'âge de 66 ans seulement. C'est très, très jeune. On en parle avec Bernard Barry. Salut, salut Bernard.
Salut, Danny.
Bernard, Marvis Hagler est décédé hier soir. J'ai eu la notification sur mon cellulaire. Moi, là, honnêtement, son combat contre Sugar Ray Leonard en 87, c'est l'un des plus beaux combats de boxe que j'ai eu. Pour moi, là.
Ouais, sans aucun doute, sans aucun doute. Moi, j'étais à ce moment-là au Forum de Montréal. On l'avait sur écran géant. J'étais avec l'équipe de notre équipe du Québec qui s'en allait aux Jeux d'hiver du Canada et puis c'était à Sydney, Nouvelle-Écosse. Et on avait eu un genre de commandite de Roger Martel qui était promoteur professionnel à ce moment-là. Et toute notre équipe était là. Fait que, tu sais, je trouvais l'occasion était exceptionnelle. Des jeunes boxeurs, tu sais, qui ils veulent faire carrière, autant chez les amateurs, on ne sait pas, professionnels. Puis là, tu te dis, waouh, on les amène dans cette situation-là où ils vont avoir un grand combat. Mais des fois, quand on parle de ça, de ces combats-là, on a beaucoup d'espoir, puis on est déçu. Mais ça n'a pas été le cas, là. C'était un des meilleurs combats, là. Tu sais, sincèrement, c'était tellement stratégique, cette affaire-là, dans le sens que Marvin Hagler a laissé aller Sugar Ray Leonard dans les premiers rounds. Il laissait aller, il disait, ah, je vais le reprendre plus tard, puis il n'y aura pas de problème. Tu voyais sa stratégie, ça m'a laissé s'énerver. Là, on sait que Sugar Ray Leonard, c'est un boxeur qui est très rapide. Et là, finalement, à un moment donné, il s'est mis en marche. Et là, c'est sûr que le ring est devenu petit pour Sugar Ray Leonard. Mais heureusement pour lui, Leonard avait pris une bonne avance. Là, et finalement, quand ils sont arrivés à la fin, bien, c'était une décision partagée. Et ce qui est surprenant dans cette décision partagée, il y en a un qui donne 115-113 à Hagler, hein, 115-113 à Leonard, et il y en a un, lui, je ne sais pas où il était, là, mais il a donné 118-110 à Leonard. Et ça, là, ça l'a tellement frustré Hagler que finalement, Hagler, il a dit, non, moi, je reviens plus, là, c'est
Est-ce que
la fin
c'est
de ma
ça qui a fait.
carrière.
Ouais, parce qu'il n'est jamais revenu, hein. Écoute, il avait 31 ans, il était au sommet de son art quand il est revenu, là, lors de ce combat-là, là.
Ouais, c'était vraiment, comment je te dirais, décevant parce qu'on pensait surtout que toute sa carrière, Hagler, il a eu trois défaites qu'il a vengées. Il a eu deux combats nuls qu'il a vengés. Donc, lui, il ne laissait rien traîner, là. Puis, à mesure qu'il y avait quoi qui ne marchait pas à son coup, là, il voulait pas laisser de trace. De ses 62 victoires, il y en a 52 pendant la carte. Tu sais, on aurait pu penser qu'une revanche, tout le monde lui disait ça, tout le monde souhaitait ça, un combat revanche, puis malheureusement, ben, il a décidé, lui-là, que ça en était fait de la boxe, et il était tellement déçu de cette décision-là. Donc, ça a fait en sorte que on n'a pas eu l'occasion de vivre ça, là. C'est vraiment, c'était décevant, parce que il y avait aussi un combat de championnat du monde, son demi-frère, Robbie Sims, avait perdu le championnat de WBA des poids moyens contre Sumbu Kalembe, le dur cogneur en Italie. Et puis là aussi, là, il avait été bien déçu de la décision. Ça s'est arrivé à peu près en même temps. Là. Et là, il avait dit, ah oh, non, moi, là, je veux plus rien savoir de ce game-là. Il a jamais accepté sa défaite contre Sugar Ray Leonard, mais jamais. Il est convaincu qu'il avait gagné ce combat-là. Mais sincèrement, dans mon cas, moi, le combat est serré. Là, quand tu arrives à 115-113 pour deux juges, d'un côté comme de l'autre,
moi,
c'était jouable. Un combat nul aurait été jouable. Tout ça aurait été jouable. Mais il peut dire par sa faute, par sa très grande faute, parce que lui, c'est comme s'il a laissé la première partie du combat à Leonard.
Ouais.
S'il avait mis la pression plus tôt, probablement que la décision aurait été différente.
OK. Si on parlait maintenant, il s'est battu aussi contre Thomas Hearns également, qui était. On dit que c'est un. Ben, je l'ai vu, mais je l'ai vu également sur YouTube. Tout ça traîne sur YouTube en passant, mais moi, j'aimais mieux le combat contre Leonard que contre Hearns. Mais il y en a qui disent que c'est dans les trois derniers rounds, là, c'est pas mal l'un des meilleurs combats, les trois derniers meilleurs rounds de l'histoire.
Ouais, effectivement. J'avais regardé. Premièrement, le combat s'est terminé par knockout au troisième round. Et puis, le premier round était tout à fait exceptionnel. Probablement le premier round, quand on parle d'un round qu'on ne verra plus jamais. Là. C'est parce que les Russes étaient deux cogneurs qui étaient convaincus eux autres de knocker n'importe qui avant d'eux autres. Et il avait fait une grande, grande promotion partout aux États-Unis. C'était à promener les grandes villes, Los Angeles, New York, les conférences de presse. Et puis c'était sur le pay-per-view, bien entendu. Et plus que ils voyaient, plus que ça y sait, là, c'était bien évident. Puis eux autres, t'as convaincu de m'en knocker, mais là, quand ils sont embarqués sur le ring, ils étaient tellement bombés qu'ils ont tout fait pour se knocker en partant. Et puis, effectivement, le premier round, là, ça n'a pas d'allure. Là. Les bombes, ces deux-là se sont lancées, puis c'était tellement excitant. Et malheureusement, un s'est fracturé la main droite. Okay. Et là, je comprends bien que le combat virait de bord, puis au troisième, finalement, il s'est fait envoyer au tapis. Mais par la suite, une année ou deux après, j'avais vu une émission aux États-Unis, puis il y avait pris six entraîneurs là, qui étaient des vieux entraîneurs aux États-Unis, qui étaient vraiment, là, je n'aimerais pas parce que dans le fond, je ne veux pas en oublier, là, mais qui étaient parmi les mains. C'était parmi les meilleurs, là, qui étaient là. Et puis, ils ont dit aux six entraîneurs, là, c'était comme une révision de l'histoire de la boxe. Okay. Quand ils sont arrivés au moment pour dire, c'est pour vous, quel a été le meilleur combat de l'histoire de la boxe? Tu n'as pas tous les avoir vus, là. Ils étaient vieux, mais pas tant que ça. Mais eux autres, là, unanimement, ils ont dit, Eggler Hearns, unanimement comme le combat de l'histoire. Fait que t'imagines-tu, ces vieux entraîneurs-là et ce combat-là, c'est passé en 1985. Moi, et cette émission-là avait eu lieu peut-être un an ou deux après. Donc, ça avait tellement marqué l'imaginaire. Ça avait même pas duré 9 minutes, là. Mais ça a été, on était tous sous le bout de nos sièges, on capotait de voir aller ça, là. Ces deux gars-là qui voulaient rien savoir, qui étaient super bons, mais étaient super puissants. Et puis que là, il était convaincu un et l'autre qui était pour son hockey, mais finalement, c'est un qui a payé les prix. Mais je ne sais pas, c'est cassé la main, ça aurait pu changer de quoi, sûrement, mais je ne sais pas. Là, en tout cas, on en parle encore, puis on t'explique.
Hagler domine encore, je pense, le nombre de KO. Hein? Il y a encore le record, hein, Marvin Hagler, du plus grand nombre de KO. Hein?
Il y a 62 victoires, il y a 52 victoires par knockout. Ça ne faisait pas dans la dentelle. Le fait qu'il était gaucher aussi, ça lui aidait. Mais lui, il y avait un marteau là, dans le gant. Là. Fait que c'est sûr que quand il arrivait, là, et tabarnouche, tu voyais, là, c'était fait fort. Puis lui, il a fait toute sa carrière chez les 160 livres, chez les bons moyens. Il a défendu son titre à une douzaine de reprises. Donc, tu sais, c'était un phénomène là, exceptionnel. Là. Quand on regarde là, sa carrière, là, on ne peut pas faire autrement que de trouver... Là, c'est difficile de trouver mieux. Là. C'est Carlos Monzon, qui en a, qui est l'Argentin, qui a eu qui a précédé puis qui a eu une grande carrière. Mais c'est certain que... Puis en plus, il avait de la fidélité dans son coup. Il a fait toute sa carrière avec les frères Petronelli de Boston. Okay. Il n'a pas... C'est exact de s'enfarger, mais il était très fidèle à ses entraîneurs. Là. Il n'allait pas voir ailleurs. Il était convaincu qu'il avait la bonne équipe.
OK. Dis-moi, on en a parlé l'autre fois parce que ça faisait le 50e anniversaire du combat Ali Frazier. Mais encore une fois, je reviens avec ça. Quand je vois ça, là, Leonard Durant, t'avais Hagler, Hearns. C'est-tu moi, mais dans ce temps-là, il y a...
Et Pino Cuevas, dans les 147 livres, à l'époque que Hearns était Leonard, était dans les 147, Durant avait monté là, venait de chez les légers. T'avais Pepino Cuevas, le Mexicain, qui ferait pas pour assommer n'importe qui. Là. Donc, tu sais, et puis là, les gars sont tranquillement sont montés. Durant d'aller perdre, mais il a donné toute une bataille à Hitler dans sa carrière. Puis là, Tommy Hearns, puis Sugar Leonard, tu sais, les grandes adeptes des poids mi-moyens sont montés pour aller affronter Hitler, tu sais, avec plus ou moins de succès, là, à part Sugar Leonard.
Il y en a un autre aussi, là, qui avait battu Leonard, là, dont le nom m'échappe, mais en tout cas, c'était le bon temps de la boxe. Hein. Il y en a plus de ces combats-là, de ces combats-là qui font triper, tu sais. T'avais Oscar, t'avais Arturo Gatti, t'avais des boxeurs charismatiques. Il me semble que ça n'existe plus, est-ce que je me trompe? Ou c'est moi qui aime moins boxe qu'avant?
Écoute, on a eu une belle époque. Et donc, c'est sûr que dans le moment, c'est peut-être un peu plus tranquille pour les gros noms. On a Canelo Alvarez, on a Gennady Golovkin. On a eu à quelque part, on a eu des frères Klitschko. Mais tu sais, la boxe, à ce moment-là, est très, très concentrée beaucoup sur l'Amérique. Alors que là, aujourd'hui, international, tu sais, l'Europe, et surtout l'Europe de l'Est, a développé énormément de bons boxeurs. C'est sûr qu'on a l'impression d'avoir échappé ça un petit peu, parce qu'elle était très américaine dans ces années-là, donc la publicité était énorme. Et il faut dire qu'on a eu des boxeurs là, vraiment exceptionnels à cette époque-là. Et on en cherche encore. Ça, on n'est pas découragé.
Le boxeur que je cherchais, c'était Wilfred Benitez. Lui, il était.
Oui, c'est l'hôpital, mais Benitez n'est jamais monté chez les 160 livres. Il n'a jamais affronté Marvin Hagler.
Il n'a jamais affronté Marvin Hagler.
Benitez qui a été le boxeur le plus jeune de l'histoire à gagner un titre mondial à 17 ans. C'était tout à fait exceptionnel. Quel boxeur, vous savez, ben, portoricain, Benitez.
Hey Bernard, je veux te parler de Marie-Ève Duquet, puisque tu es là. Donc, Marie-Ève, on a eu le classement cette semaine, j'y ai parlé. Bonne nouvelle quand même. Pour elle n'a pas reculé dans le classement. C'est une belle nouvelle, ça.
Oui, absolument. Écoute, Marie-Ève Duquet, elle fait son possible. Là, elle a enfin une machine, la meilleure boxeuse de l'histoire, de toute l'histoire de la boxe féminine, Clarissa Shields. Et puis, elle n'a pas fait pire que les autres. Fait que, finalement, elle s'est démenée, puis elle était là jusqu'à la fin, puis elle a essayé jusqu'à la fin. Fait que, c'est sûr que là, Shields a ramassé les ceintures un peu partout, comme elle fait là. Elle ne pourra pas tout défendre ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'Yvon Michel va être capable d'en ramener un combat de championnat du monde. Dans quelques mois ou plus tard dans une année, qui va faire en sorte qu'elle va avoir la chance de remettre la main sur une ceinture mondiale. Mais c'est sûr, tu peux pas. Il arrive une époque, là, c'est à peu près à la même époque qu'Éric Lucas a rencontré Roy Jones. Roy Jones était tellement au-dessus de la mêlée que tu sais, d'aller là, t'es abattu avant d'arriver. Tu sais. Mais là, c'est un peu le même principe avec Clarissa Shields. La fille est pas bonne, elle est bien bonne. Là. C'est, elle a tout ce qu'il faut. Là. Elle est intelligente sur le ring, elle est forte physiquement, elle cogne avec autorité. Elle a des solutions tout le temps aux problèmes. Fait que pour elle, Marie-Ève Duquet ne représente pas un grand danger. On l'a bien vu. Sauf que Marie-Ève Duquet s'est terminée comme un diable dans l'eau bénite. Puis finalement, on va élever notre chapeau parce qu'il y en a bien qui seraient découragés.
OK. Oui, parce que puis ce qu'on dit à travers les branches, c'est qu'elle montrerait de poids à Clarissa Shields, donc ça l'abandonnerait toutes ses ceintures. C'est là que ça risque d'arriver, là. La porte va être grande ouverte pour elle, là.
Oui, absolument. Comme je te dis, là, il y a des positions qui vont se libérer. Clarissa Shields, elle ne peut pas se battre au ring. Elle ne pourra pas se promener. Elle a 10 ceintures en 11 combats, elle-là. Là. C'est là, trop fort pour la ligue.
Ouais. Bernard, gros merci. Donc, triste nouvelle. En tout cas, Marvin Hagler, c'est un boxeur. Moi, j'étais pas amateur de boxe dans le temps, mais j'ai revu ses combats sur YouTube. Et je peux te dire que c'était toujours excitant, ses combats. C'était toujours quelque chose de génial. Donc, surtout lui contre Leonard. Donc, grosse perte pour le monde de la boxe.
Il avait beaucoup de respect. Hein? Un boxeur qui embarquait avec Hagler, là, il était loin d'être sûr de son coup. Là, parce
non,
que
non.
Et c'est rare ceux qui se lançaient sur lui là, puis, pour le mitrailler. T'sais. Leonard avait fait ça à son début de combat, mais je veux dire, ça avait été c'était occasionnel. Là, puis il jouait de prudence, Leonard. Là, puis son jeu de pied, il l'avait sauvé à bien des occasions.
Ouais. Bernard, gros merci. On se reparle quand l'actualité de la boxe l'exige.
Ça me plaît, bye bye, bonne fin d'émission.
Notre ami Bernard.